Yofi. Alors, Eftov, Likulam, on revient dans notre étude sur la Torah de Manitou et la pensée du Rav Yehuda Léon Ashkenazi. On s'était arrêté pendant les fêtes, on revient. On a déjà évoqué, on a fait trois cours, et on a évoqué d'abord de manière générale qui était Manitou. Ensuite, on a parlé de la notion de Ish Veisha dans la Torah de Manitou, et comment est-ce qu'on doit étudier la Torah du point de vue de Manitou. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un masterpiece, à un point central de sa Torah, la notion de création. Ok ? La notion de la création du monde, on est dans les parachutes de Bereshit Noir, on ne va pas encore parler de Sod à Ivri, ça on en reparlera, ce sera un gros sujet aussi à traiter, la famille hébraïque, tout ça, et peut-être on commence ça la semaine prochaine, mais là on va parler de la notion même de création. La première chose qu'il faut noter, que Manitou enseignait, c'est d'abord que, je le répète, je le dis à chaque fois, mais quand on te dit que les sources c'est pour de vrai, ça veut dire qu'il faut les étudier et leur donner tout leur respect. Quand on te dit que Be'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam, ça c'est la Mishnah dans le traité de Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1, qui nous dit que le monde a été créé par 10 paroles. Bon, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est la première chose à se mettre en avant. Si la Torah a été créée, enfin, si le monde a été créé par 10 paroles, c'est que donc ça a commencé par une parole. Parce que là, ça paraît évident. Seulement, c'est quoi la parole? C'est l'expression de la volonté. Ok, ça c'est quelque chose qui est très fondamental. La parole, c'est l'expression de la volonté. D'ailleurs, vous savez très bien que tant que vous avez une pensée quelconque sur quelqu'un, tant que tu n'as pas dit ce que tu avais dans la tête, en leze metziyut. T'aimes quelqu'un, tu ne lui as pas dit, ben, il ne le sait pas forcément. Particulièrement quand c'est un garçon qui ne l'a pas dit à une fille. Tu m'as pas dit. Mais en plus, sérieusement, tant que je n'ai pas dit ce que je pensais, ben, les gens ne peuvent pas le savoir. Donc la parole, c'est l'expression de la volonté. Si Dieu donc a parlé, c'est qu'il exprime une volonté. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la création, d'abord et avant tout, est un acte volontaire. C'est pas... Pouf, il y a eu une création parce que tout d'un coup, il y avait trop d'énergie, trop de matière. Non, il y a une volonté de création. Ce qui veut dire que le monde a un but, puisqu'il y a quelqu'un qui a voulu le monde. D'accord ? C'est la première chose à comprendre. La création, ce n'est pas stami, et là, c'est retsoni. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, alors on peut commencer. On peut commencer parce que la notion de création se retrouve, donc volontaire, se retrouve dans le premier mot de la Torah. Le fameux Bereshit, que vous savez bien, ne veut pas dire au commencement, mais ça veut dire dans l'objectif de Reshit. Oui, rappelez-vous, le premier Rashi de la Torah. D'accord ? Regardez, je lis avec vous le premier Rashi de la Torah. Amar Rabbi Yitzhak lo haya tzarich la'atril et la Torah ela mi'achodesh hazeh lachem, parce que c'est la mitzvah rishona, ça aurait dû commencer par la première mitzvah de Kiddush HaChodesh. שיצטוו ישראל ומעמת בתר בראשית משום כוח מעשה ויגיד לעמו, שאם הם אמרו אומות העולם ליסטים אתם שכיבשתם, si on vous dit vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des sept peuplades cananéennes, alors vous pourrez leur dire toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu et il l'a donnée à qui il a envie. Ça c'est le premier rachis de la Torah. Ce premier rachis vient nous dire quoi? Il vient nous dire à qui s'adresse la Torah. À qui s'adresse la Torah donc? Ah ? Ben non, en fait, elle s'adresse au Goïm. Puisque Rashi nous dit, pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit ? Parce que si un jour les Goïm viennent te dire, alors tu sauras quoi leur répondre. Donc la Torah s'adresse, la Torah écrite évidemment, la Torah orale c'est que pour nous, mais la Torah écrite s'adresse à ce qu'on doit répondre à Umot Haolam. Maintenant, une fois qu'on t'a présenté de, ok, alors pourquoi je te l'ai écrit ? Qu'est-ce que je t'ai écrit ? Eh bien, Rashi deuxième nous dit, המקרא הזה אומר אלא דורשני. מה זה? C'est-à-dire, toute cette Torah, elle demande d'être expliquée. Comment? כמו שדרשו חז"ל. C'est-à-dire quoi? Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit, חז"ל? Regarde ce qu'ils ont dit. Bishvil la Torah shenikret reshit. Ou bishvil Israël shenikreu reshit. Donc, bereshit ne veut pas dire au commencement. D'ailleurs, Rashi continue en te disant ve'im. Ve'im. Ve'im bata lefaresh kipshuto. Kar parsheu. Bereshit briyat shamaim va'aret. Si tu avais voulu dire que c'est au commencement, tu aurais dû dire au début de quelque chose. Puisque le mot Bereshit termine par un tav, et ça fait donc de lui un état construit, une smichut, et donc ça veut dire qu'il est collé, smichut, ça veut dire qu'il est collé à un autre mot. Ok ? Donc tu aurais dû avoir marqué Bereshit haolam. Au commencement du monde, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Bereshit tout court, ça ne marche pas grammaticalement, ce n'est pas de l'hébreu. Donc non, ce n'est pas au commencement. Ok ? Nous dit Rashi, dans l'objectif, pour l'objectif de, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, le fait que Rashi nous dise c'est la Torah ou Israël, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la création, c'est un acte volontaire et elle a donc un but. Bishvil Reshit. D'accord ? Donc, on s'en fiche de savoir la création. Si vous voulez, le comment de la création, c'est pas ça qui nous intéresse, puisque ça, ça répond à pourquoi. Ça répond à comment, c'est-à-dire, alors que nous, nous voulons répondre à pourquoi. D'accord ? C'est ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il a précédé Manitou à ce niveau-là, et il dit tout simplement, dans son livre Be'er HaGola, lorsqu'il y a des gens, vous savez, Be'er HaGola, c'est le livre qu'il a écrit pour venir un petit peu à la rescousse des Agadotes. Des agadotes qui sont marquées, des histoires qui sont marquées dans le Talmud, des fois même dans la Torah, qui sont un petit peu exagérées. Et donc, il y a plein de gens à son époque, il y a 400 ans, qui ont commencé à dire « Ouais, la Torah, c'est n'importe quoi, regarde ces histoires, c'est sûr que c'est pas vrai. » Et le Maharal te dit « Mais à aucun moment, on a demandé que ce soit une vérité historique. Les histoires de la Gemara ne sont pas forcément là pour nous raconter une vérité historique. Quand on te parle de l'oiseau Bariourné qui est tellement grand que quand il déplie ses ailes, ça fait de l'ombre sur 60 villes, il n'y a pas d'oiseau comme ça. C'est-à-dire. Et là, ça veut dire quelque chose. Il faut essayer de comprendre ce que veut dire la Haggadah. Et donc, nous dit le Maharal, le pourquoi à si bas des choses, eh bien, ça, tu vas demander à la Torah. Mais le comment ça marche, la nature, tu vas demander au Chachmei HaTeva, les scientifiques. C'est-à-dire. Donc, la Torah, c'est un acte volontaire. C'est une pierre angulaire de la pensée de Manitou. C'est non seulement un acte volontaire, mais ça se retrouve dans le premier mot de la création. Il y a un but à cette création. D'accord ? Besset. Donc, maintenant qu'on sait que Dieu il a voulu créer, comment il a fait ? Comment ? Je ne pose pas la question au niveau scientifique, parce qu'on a dit on s'en fiche. Je pose la question au niveau moral. Quel est le problème moral dû à la création. Le problème, j'allais même dire, de logique intrinsèque à la création. La création, c'est un acte ex nihilo. Le problème, il est quoi ? Il est que la notion de ex nihilo est une notion qui est étrangère à l'humain. Eh oui, c'est Lavoisier qui a expliqué ça. Qu'est-ce qu'il a dit Lavoisier ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, de dire qu'il n'y avait rien et pouf, il y a quelque chose, ça contredit les lois de l'univers. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer l'idée du Yesh Me'ain ? On ne peut l'imaginer que parce que Dieu nous l'a dit. Et encore, on a du mal à concevoir ce que c'est le Ain. Ok ? Vous êtes avec moi là ? On n'arrive pas dans la littérature, dans le cinéma, ou ce que vous voulez, à créer des choses qui ne proviennent du rien. C'est-à-dire, quelles que soient les créations fantastiques, science-fiction, ce que vous voulez, ce ne sont que des mix de choses qui existent déjà. D'accord ? Donc, là on a un problème. La création, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger. Maintenant, non seulement ça, mais en plus, il y avait quoi avant la création ? avait quoi? Il y avait rien. Il y avait Dieu. Déjà pas mal. Le problème, c'est que Dieu, il prend beaucoup de place. Il paraît qu'il est infini. Donc, il prend beaucoup, j'allais même dire toute la place. Résultat des courses, il y a de place pour rien d'autre. Donc, il n'y a pas de place pour le monde. C'est un vrai problème. Tu me dis, il y a une création, mais il n'y a pas de place pour elle. Et donc, Dieu va être obligé, puisqu'il a envie de créer, de faire de la place. C'est ce que les Mekoubalim appellent le Tzimtzum, le secret de l'amincissement. Dieu s'est aminci pour faire de la place au monde. Tout ça, c'est le deuxième mot de la Torah. Bara. Bara veut dire dehors, mis à l'extérieur. En arabe, on dit bra. Dehors, mis à l'extérieur. Exister veut dire en français être dehors. Ex, ist, exit. Bachutz, liot. Ex, bachutz, ist, être, liot. D'accord ? Donc, Bereshit Bara nous dit littéralement, c'est ça qu'il faudrait avoir marqué dans toutes les traductions du rabbinat, dans le but de créer le Réchit, qui est soit l'Israël, soit la Torah, Dieu a sorti le monde de lui. Il nous a fait de la place. C'est ça ? Donc voilà le point de départ de la notion de création. Maintenant, une fois qu'on est mis en place, alors très bien. Qu'est-ce que donc Dieu met en place pour réaliser cet objectif ? Eh bien, Bereshit, oui ?
Ça aussi, c'est compliqué.
Vas-y.
C'est-à-dire un endroit qui n'est pas rempli de divin.
C'est... D'accord. Il est ou mekomo shel olam ve ein haolam mekomo. Si tu veux qu'on rentre dans des sujets plus kabbalistiques, il y a la différence entre or makif et or pnimi. C'est-à-dire, est-ce qu'il est memale mibifnim ou est-ce qu'il est mesovev? Mesovev kol almin ou memale kol almin? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il est émanant ou transcendant, les deux? À tout moment, partout, ça c'est toute la question. Quand il fait de la place au monde, ça ne veut pas dire que le monde est dénué du divin. Ça veut dire qu'il n'y a plus dans le monde Atzmuto Yidbar. Il n'y a plus son essence, mais il y a son dévoilement. D'accord ? Et là, le dévoilement, ça peut être moi, ça peut être la chaise, ça peut être qui tu veux. D'accord ? Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. Comment est-ce qu'on va réussir donc voilà, à mettre en place cet idéal de création ? Eh bien, il faut créer deux choses. Shamaim ve'Haaretz. Mazé Shamaim.
Ce qui est spirituel, pardon.
Les mathématiques ?
Non, ce qui est Kodesh.
Ce qui est Kodesh, donc et la Torah.
Tout ce qui est...
Donc, par exemple, le Sefer Torah. Mazé Shamaim. Ouais. C'est la Torah, c'est Shamaim ? Tout ce qui est Kodesh.
Ben non, mais c'est pas la Torah. Ce qui a marqué dessus, c'est Kodesh.
Mais... Non. Et ça s'appelle Shamaim ? Non ? Oui ? Shamaim, c'est Esh ou Maim. On dit dans Sage, le mot Shamaim est composé des mots Esh ou Maim. En d'autres termes, Shamaim, c'est l'endroit où peuvent coexister Esh et Maim, l'eau et le feu. Normalement, le feu n'existe pas, ne coexiste pas dans ce monde. Mais Shamaim, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. C'est une réalité où l'unité est le maître mot. En d'autres termes, c'est l'idéal. Ce n'est pas ici. C'est pas Shamaim.
L'unité des valeurs, c'est un équilibre ?
C'est pas un équilibre, c'est une unité. C'est-à-dire qu'il y a une réalité où l'eau et le feu doivent pouvoir coexister. Dans notre monde, non. Mais ce que représente l'eau, ce que représente le feu, ça doit pouvoir un jour coexister. Bah, mazé. C'est caché. Maïm, Zeyesot kolma. L'eau, maïm, c'est l'origine de chaque questionnement. Maïm, c'est le pluriel de ma. Donc c'est l'origine de chaque question. Esh, maze esh. Esh, c'est le seul élément qui nous permet de nous élever. Et le feu, c'est la seule chose qui monte. Donc,
pourquoi est-ce qu'on n'est pas brûlé quand on meurt alors ?
Pour nous élever. Mm-hmm. Ah, simplement parce que il y a un verset qui nous dit que mina afar lukarta ou vela afar tashuv. Pourquoi ? Parce que il est évident que le feu nous fait nous élever, mais on veut aussi que tu ne sois pas complètement délaissé ta réalité ici-bas. Mais on a pris l'habitude, c'est un minhag du peuple juif, d'allumer des bougies. Qui ner Hashem nishmat Adam. D'accord ? Donc il y a cette dimension également du feu qui est arrivée. Quoi qu'il en soit, ça veut donc dire que Esh Vemaim doivent coexister dans un monde où les valeurs qui dans ici-bas sont séparées doivent pouvoir coexister dans l'unité. C'est l'idéal. Il va y avoir à un moment donné de l'histoire une apparition de cet idéal dans ce monde. C'est lors de la plaie de la grêle, où il y aura un feu dévorant à l'intérieur de la grêle qui est de la glace. C'est-à-dire ? Donc, Shamaim, c'est l'unité des valeurs. Ah, ok, mais ça, c'est là-haut. Quand je dis là-haut, je ne parle évidemment pas du bleu qu'on voit dans le ciel. Quand on demande à Timon, Pumba et autres Simba, mais qu'est-ce que c'est lumière là-haut ? Alors, vous connaissez tous la réponse de Simba. Lui, il dit, ce sont les grands rois du passé qui nous protègent. Et Pumba, il dit, moi, je croyais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Alors, Pumba a raison au niveau scientifique et Simba a raison au niveau moral. Eh oui, au niveau moral, baruch que c'est Avotenu qui nous protège de là-haut. Au niveau moral. Donc la question est de savoir, Shamaim, on a compris, c'est un monde métaphysique. Comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que Shamaim puisse se dévoiler ici ? Il nous faut Aaretz. Eze Eretz. Eretz Israël. Oui, dans ce premier verset de la Torah, quand on dit Aaretz, ça parle de Eretz Israël. Qui me l'a dit ? Hein ?
Non, quoi ? Comment vous savez ?
Ah ben comment je sais ? Tu te rappelles que j'ai précédé le tout début du cours, j'ai lu le premier rachi de la Torah. Je répète. Amar Rabbi Yitzhak, lo ita tsarich la'atril et la Torah mi achodesh hazeh lachem, shei mitzvah rishona, shei nitzavu ba'Yisrael. Uma ta'am patach be'bereshit. Pourquoi il a commencé par Bereshit? Mishum koach ma'asav yigid la'amo latet lahem nachalat goyim, she'im yomru umot ha'olam le'Yisrael. Écoute bien ce qu'ils disent. Listim atem shekivashtem arzot shiva goyim. Vous êtes des voleurs que vous avez pris la terre des sept peuplades cananéennes. Hem omrim lahem. Mizehem. Les juifs. Omrim lahem, la goyim. Kol haaretz shel hakadosh baruch hu. Toute la terre appartient à Dieu. Mais de quelle terre on parle ? Ben, la terre d'Israël, d'où je sais, ben, la suite. Ubera ou netana la asher yashar be'enav, birtsono netana lahem, ou birtsono netala mehem, ou netana la nous. Il leur a donné avant, et maintenant il leur a repris, il nous l'a donné à nous. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme terre, Dieu ? Le Mexique ? Non ? Il nous a donné la terre d'Israël. Donc, ben, tout ce verset-là, d'après Rashi, parle de la terre d'Israël. C'est ça ? Et pour un enfant qui a grandi en Eretz Israël, c'est pas shoot. Moi, je me rappelle très bien mon fils, alors 5 ans. Il me dit, mais t'as pas Arutz la Arutz. Parce que pour lui, Arutz, c'est pas. C'est-à-dire ? Mais c'est pas seulement pour lui, c'est Rashi qui nous explique ça. Donc ici, Eretz Israël, c'est l'endroit où on va pouvoir révéler cette dimension de Shamaim. D'accord ? Quand on vous dit par exemple qu'il y a un Beth Amikdash qui est banouille umshukhlal bashamay. C'est vrai qu'il y a déjà le Beth Amikdash qui est prêt comme il faut bashamay. Le fameux Beth Amikdash qui va tomber du ciel. Alors, soit vous pensez de manière, je ne vais pas dire débile, mais je vais dire humoristique, qu'il y a quelque part dans la Voie lactée un astéroïde avec un Beth Amikdash qui est déjà dessus. C'est possible, on ne sait jamais. Et qu'un jour, il va s'écraser sur Terre. Bon, ça risque de faire beaucoup de poussière. Ou alors, tu comprends que quand on te dit que Yesh Mikdash Banu Yom Shukhlal Bashamayim, c'est Bashamayim. Donc ce n'est pas dans l'espace. C'est dans cette réalité métaphysique de Shamayim. Et là-bas, va dire qu'il y a le Beth Amikdash qui est déjà prêt. Seulement, il va falloir qu'on descende ici. Ok ? Comment ça s'appelle le descendre ici ? Ça s'appelle le construire. D'accord ? Bezel. Donc, on a compris qu'il y avait une volonté de création, et voilà comment on va mettre en place cette création. Et là, on nous dit comme ça. Il y a d'ores et déjà un programme. La création du monde est en 6 étapes. Qui sont les 6 jours de la création. Maintenant, ces 6 étapes, nous dit Manitou, évidemment qu'il ne s'agit pas de jours. Pour la simple raison que le mot yom, vayere vayivoker yom echad, bah, le fait que nous on l'appelle jour, c'est nachon. Mais lorsque apparaît un mot pour la première fois, il faut aller à la racine. Quelle est la racine du mot yom? Ayo. Liyot. Yom, c'est un état d'être. D'accord ? Et il en veut pour preuve, Manitou, que le premier jour, on te dit « Vayere, vayevoker, yom, echad ». Donc, moi j'étais à l'Ulpan, le deuxième, il doit être « Vayere, vayevoker, yom ». Ben non. Après echad. Shtaim. Vayere, vayevoker, yom, shalosh. Yom, arba. Yom Chamesh, Yom Shesh. Ce n'est pas le cas. On nous dit Vayere Vayevoker Yom Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Hashishi. Attends, si on m'a dit Sheni, alors le premier, il aurait fallu dire quoi? Rishon. Alors comment on s'arrange? Eh bien, on nous dit Manitou, le premier jour ou Yom Echad. Somaret ou Shalem. Il se suffit à lui-même. C'est un état d'être. C'est le premier état. Il est état 1. Vayere vayevoker yom sheni, c'est le deuxième moment où il y a un état d'être 1. C'est-à-dire le yom sheni gamou echad. Mais d'un autre point de vue. Vayom ashlishi gamou echad. C'est le shlishi shehu echad. Mais, encore une fois, avec un autre aspect. Et ainsi de suite. Nous avons 6 états différents de la même création. Ils sont chacun Yom Echad, seulement ils représentent chacun autre chose. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va créer ? Eh bien, on a 6 objectifs, 6 objectifs qui ont chacun un miroir entre les 3 premiers et les 3 derniers. Le miroir est le suivant. Le premier jour, on va créer la lumière. Le deuxième jour, on va créer la séparation entre les eaux. D'en haut et d'en bas. Vadaï. Rakia Bashamay. C'est-à-dire qu'on va créer le Péroud. Il n'y aura plus cette unité. C'est-à-dire ? Et le troisième jour, on va créer la terre. Le quatrième jour, on va recréer la lumière. Mais avec cette fois un mouvement. Les astres. Soleil, lune et étoile. Le deuxième jour, on va créer ces mêmes eaux du haut et eaux du bas, mais avec du mouvement. Des oiseaux et des poissons. La vie dans le ciel, la vie dans la mer. Et le sixième jour, on va créer la terre en mouvement. Les animaux et l'homme. En d'autres termes, sont créées les mêmes choses les 3 premiers et les 3 derniers jours. À la différence que l'un voit l'idéal dans la stagnation et l'autre, l'idéal, dans l'évolution. D'après l'enseignement de la Kabbalah, quel est le centre de la semaine ? Shabbat. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Ça veut dire quoi le centre ? Zamerkaz, Zahikar. Les trois jours qui précèdent Shabbat sont les jours, en fait, du mercredi, jeudi, vendredi, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, qui sont les jours où on va vers quelque chose, donc on est en mouvement perpétuel, et les trois jours après, Rishon, Sheni, Shlishi, sont les jours où on bénéficie de la Kdusha du Shabbat, on ne bouge pas, on est en train de puiser ce qui continue à être là, mis en place depuis Shabbat. De manière purement d'ordre masterchef, mercredi, on commence à cuisiner pour Shabbat, et on mange les restes jusqu'à mardi. C'est mamash kacha. Ou alors, au niveau halakhique, tu peux commencer à te souhaiter Shabbat Shalom mercredi, et tu peux faire la Havdalah jusqu'à mardi. C'est ça ? Donc tu ressens, tu commences à ressentir l'influence du Shabbat le mercredi jusqu'au mardi. Atkan ? Donc il y a vraiment ces deux pôles-là. Et Manitou a enfin rajouté que c'est intéressant de voir que dans le monde, dans notre monde à nous, il y a deux grands pôles de civilisation. La civilisation extrême orientale et la civilisation orientale occidentale. L'une voit dans la stagnation l'idéal et l'autre voit dans le mouvement l'idéal. Am Israël est là pour faire le trait d'union, faire le Shabbat. Comprendre qu'on a besoin et de l'un et de l'autre. Qui michel tarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé son Shabbat, lui, il pourra manger Shabbat. Celui qui n'a pas préparé son Shabbat. C'est ça ? Donc, la création, c'est sur ces deux niveaux-là. Chacun des jours de la création, nous dit Manitou, a un plan. Un plan très simple, en quatre étapes. Projet, réalisation, observation, conclusion. Vayomer Elohim, Yehi Or. Ça, c'est le projet, que la lumière soit. Va Yehi Or, la réalisation, la lumière fut. Vayar Elohim et à Or Kitov, et Dieu a vu que la lumière était bonne, observation. Vayar Eva Evoker Yom Echad, conclusion. D'accord ? Donc, quatre étapes pour réaliser chaque idéal. Ça, vous l'aurez compris, on a un bug le septième jour. Tout marche bien les six premiers jours, mais le septième, on dit Vaychulo Hashamayim Vaaretz Vechol Tzevaam, Vaychal Elohim Bayom Hashevi'i Mikol Melachto Asher Asa, donc présentation de la journée, Vaychbot Bayom Hashevi'i Mikol Melachto Asher Asa, Vaychvarech Elohim Et Yom Hashevi'i Vaykadesh Oto, on voit le projet, Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Laasot. Et là, il n'y a pas marqué nulle part Vayere Vayvoker Yom HaShevi. Il n'y a pas non plus de Vayar Elohim Kitov. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les six premiers jours de la création sont terminés, le septième, lui, ne l'est pas. Et oui, nous sommes toujours dans le septième jour. Dans l'état du septième jour qui a pour rôle de nous amener à la Kedusha. Nous sommes toujours là-bas. On n'a pas encore atteint la Kedusha. Ça viendra. Ça viendra. Et lorsque ça viendra, on pourra prendre le Sefer Torah et rajouter à la fin Vayiyu Kedoshim Vayar Elohim Kitov Vayere Vayvoker Yom HaShevi. Et là, on aura terminé le septième jour. C'est-à-dire ? Donc, notre monde est l'endroit dans lequel on doit réaliser le projet divin. Car oui, la création, on a dit, c'est un acte volontaire, mais cet acte volontaire demande à l'homme d'être un partenaire. D'accord ? Chav, le problème, c'est que c'est bien beau de dire tout ça, mais la vie qui est mise en place dans la création, est-ce qu'elle a un point final ? Est-ce qu'elle est mise en place pour là, pour les 120 ans qu'on va vivre, ou est-ce qu'il y a aussi une réalité d'éternité ? Dans le judaïsme, on admet qu'il y a Olam Azeh ve Olam Abba. Nous dit Manitou, donc ça veut dire qu'il y a deux réalités de vie. Celle dans ce monde et celle dans l'Olam Abba. Ça doit être également représenté dans le texte de la Torah. Et effectivement, c'est représenté. Il y a dans le texte de la Torah des éléments qui vont être créés, et pour les créer, on va parler d'eux en termes de Yehi, et d'autres, on va parler d'eux en termes de Vayehi. Par exemple, Yehi Or, Vayehi Or. Seulement, il y a d'autres choses qui vont être créées, où on ne dit ni Yehi, ni Vayehi. Et il y a des choses où on ne dit que Yehi et pas Vayehi. Et il y a des choses où on dit que Vayehi et pas Yehi. Yehi, Zéakiyum, c'est l'existence dans ce monde. Vayehi, c'est l'existence Baolam Haba. Il y a donc des éléments qui ont été créés qui sont et Yehi et Vayehi, qui sont présents toutes les journées de ce monde et également toutes les journées de Olam Haba. C'est quoi? C'est Aor, la lumière. Aor, katuv yehi or, vegam vayehi or. Par contre, il y a des choses où il n'y a que yehi. Yehi rakia betor hamay. Cette séparation dans le monde de l'unité n'est présente que baolam hazeh. Ein vayehi rakia. Dans l'olam haba, ein rakia. D'accord ? Ensuite, il y a des choses où il est marqué ni l'un ni l'autre. Par exemple, les animaux. Il est marqué ni Yehi Achayot, ou Abehemot, ni Vayehi. Parce qu'effectivement, les animaux ne sont ni présents dans le Olam Haba, ni ils n'ont été présents Kol Yemea Olam Hazeh. Ben non. Il y a eu une période sur Terre où il n'y avait pas d'animaux. Il y a une période où il n'y avait que de la végétation. Et il y a un élément où il n'y a pas marqué Yehi, mais il y a oui marqué Vayehi. C'est qui? Adam. L'homme, ce n'est pas marqué Yehi, Adam. Et là, il y a marqué quoi? À la place, il y a marqué Naase Adam. Par contre, il y a marqué Vayehi à Adam. Les nefesh chaya. Donc, l'homme, il est un peu là, mais il est totalement là-bas. D'ailleurs, ça me donne une clé pour savoir ce que c'est que le Olam Haba. C'est parce que c'est très bien, mais je sais que dans le Olam Haba, il y a deux éléments. Aor et Adam. La lumière et l'homme. C'est-à-dire, ce sont les deux composantes du Olam Haba. Ok ? Donc, une fois qu'on a dit tout ça, très bien. Donc la création a pour objectif de mettre en place les moyens que l'homme va pouvoir utiliser pour amener la Kedusha dans ce monde. Voilà le projet de la création. Voilà le but de la création. Que l'homme soit capable de dévoiler la Kedusha dans le monde. C'est tout un programme. Le problème, c'est que pour ce faire, il va devoir utiliser deux dimensions antithétiques. Puisque la Torah nous a dit « Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayekadesh Oto ». Donc il y a deux dimensions. Il y a la bracha qui va être utilisée pour arriver à la Kedusha. Seulement la bracha et la Kedusha sont deux notions inverses. Puisque la bracha, c'est l'abondance matérielle face à la Kedusha qui est l'élévation au-delà du matériel. Eh oui, bracha, quand est-ce qu'on voit le mot bracha? Alors là, on le voit également apparaître, mais il y a un moment donné où il y a ce qu'on appelle birkat kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire yevarechecha? Yirbu nechasecha. C'est-à-dire que t'es plein de fric. Voilà, dans vos synagogues respectives, lorsque vous voyez le Kohen monter à la tribune, vous devez lui dire de bien penser dans sa bracha, que tu as envie d'une petite augmentation. Yirbu nechaser. Aval hakedusha, c'est l'osé. Hakedusha, c'est le fait que tu n'es pas connecté à Olamazé, puisque tu es connecté, c'est-à-dire à l'abondance matérielle, puisque tu es connecté à une abondance qui vient d'ailleurs. C'est hakedusha. Maintenant, rien n'empêche de faire des synthèses entre la bracha et la kedusha. Comment on fait par exemple? Ben, je fais une bracha avant de manger. Et je fais une bracha surtout après manger. À quoi sert la bracha d'avoir mangé? C'est-à-dire d'enlever la kedusha. Puisque l'aliment que je vais manger, il est Kodesh Lachem. Comme il est dit dans le verset, Lachem, Aretsu Meloa, Tevel Veyoshveva. Tout appartient à Dieu. Donc si je prends maintenant une pomme, je vole Dieu. Je fais la bracha pour lui enlever la Kedusha. Le faire devenir Chol. Je le mange et je fais la bracha d'après. Pour dire merci et pour ramener tout ce qui vient de se passer là dans mon corps, qui est purement bracha matériel, je l'amène à la kedusha. D'accord ? Donc il y a cette volonté de réunir les mondes. Car c'est bel et bien de cela dont on parle. Le projet de la création, c'est bel et bien de réussir à réunir les mondes. Nous sommes dans le septième. Le huitième jour, c'est Yom Shekulo Shabbat. Shekulo Kodesh. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Baolam Hazé, on est obligé de bosser. Lui, il se repose. C'est important, ça fait maintenant 5783 ans que lui, il est en mode Shabbat. Et nous, nous sommes le goy de Shabbat de Dieu. On fait le boulot. Ah oui, vous connaissez le concept du goy de Shabbat. Quand est-ce que tu utilises le goy de Shabbat? Pendant Shabbat, quand quoi? Quand ce que tu as mis en place avant, ça ne marche pas exactement comme prévu. Ce que tu as mis, ta minuterie. Ça va des fois. Bah, Dieu aussi, il a mis une minuterie en place, elle s'appelle la nature. Ça marche super bien. Mais il y a certains trucs pour lesquels il veut que l'homme qui soit le Shabbos Goy qui fasse le boulot. Et des fois, quand il y a vraiment Pikuach Nefesh, quand il y a un cas de force majeure, de vie ou de mort pour l'histoire, alors Dieu intervient et fait un miracle. Ça s'appelle Chiloul Shabbat. Eh oui. Dieu, il a décidé d'arrêter. Donc s'il transgresse son Shabbat à lui, c'est Chiloul Shabbat. Mais il y a des cas de force majeure pour lesquels c'est permis. Entre parenthèses, ce qu'il vient de nous faire dire, comme dit le Ramban, c'est pas Manitou qui l'a inventé, mais que le miracle, c'est pas bien. La journée, tu entends des gens qui te disent, ah, des rabbins, disent, ah, on veut retrouver les miracles et tout. On veut dire, non, c'est pas bien les miracles. Miracle, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vachement mieux quand on est capable de se débrouiller sans miracle. Tu me regardes comme ça, ah. Genre avec des miracles, ce serait vachement plus simple hein, quand même. La Ron, Baron, Machal, le Ma'adavar Domé, le Machal le plus évident pour comprendre ça, c'est la maman qui reçoit 25 personnes Shabbat. Elle reçoit 25 personnes Shabbat dans le Shabbat où on vient de changer l'heure et où évidemment il n'y a pas le temps. Et non seulement il n'y a pas le temps, mais en plus, c'est le jour où ton gosse de 5 ans, il s'est ramené la veille avec un pouls. Et donc la ganénette, elle a dit, il ne peut pas venir à l'école. Et donc, tu te le tapes sur les bras pour préparer le Shabbat de 25 personnes. Et il ne va pas te lâcher. Et maman, je peux t'aider? Maintenant, est-ce que c'est sûr que tu aurais mieux fait et plus vite toute seule? Attends. Mais au niveau éducatif, est-ce que c'est sûr que c'est mieux de lui donner quelque chose à faire? Est-ce que ça va être bien fait? Ben, y a de fortes chances que si tu lui donnes à éplucher les patates, il y ait des morceaux de doigts dans la salade. C'est possible, avec une sauce goût sang. Ça, non? Agave, si jamais vraiment il a fait n'importe quoi, parce qu'au final il a épluché toutes les patates et tout, et il l'a mis dans le saladier, il l'a fait tomber le saladier, il y a du verre partout, et immangeable. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais toi, en tant que maman, en tant que Dieu, t'avais prévu déjà un plat de lasagne au congèle maximum. C'est Akadosh Baruch Hu maximum, il a ses trucs à lui. Mais Bevadai qui veut que ça passe par nous. C'est ça la notion de création dans la Torah de Manitou. Un acte volontaire qui permet de faire de la place au monde pour pouvoir dévoiler l'unité des valeurs par l'intermédiaire de la terre d'Israël. Cette unité des valeurs pourra être atteinte lorsqu'on comprendra qu'il y a tant une importance à l'évolution qu'une importance à l'acquis dû à cette évolution, au mouvement comme au fait de se poser. Il y a pour cela deux idéaux, celui de ce monde et celui du monde à venir. Et ceux qui doivent réaliser cet objectif-là, eh bien c'est l'homme. À l'origine, l'homme, comme l'humanité va montrer ses faiblesses et sa volonté de ne pas le faire, alors il faudra après se recroqueviller sur une famille de l'humanité qui va devenir le peuple juif. Mais à la base, c'est pour l'humanité tout entière. Adam Harishon, c'est l'humanité, c'est pas que nous. C'est-à-dire, c'est parce que l'humanité va montrer ses limites, Parashat de Noir, de Maboul et de Migdal Bavel, qu'on va se rattacher vers Avraham Avinu. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris ça, alors l'homme, pour y arriver, doit utiliser la dimension de bracha, c'est-à-dire utiliser ce monde pour arriver à la dimension de Kedusha. La dangerosité, c'est que l'homme pénètre dans la dimension de Kedusha avant l'heure. C'est-à-dire qu'il pénètre dans le huitième jour alors que les objectifs du septième n'ont pas encore été atteints. C'est le danger lorsqu'on rentre au Beth Amikdash ou encore plus, a fortiori, au Kodesh HaKodashim. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans une réalité tellement différente, tellement énorme de connexion sans écran avec Dieu, que tu n'as pas envie de ressortir. Et c'est pour ça que « Ufren man edar aya Kohen Gadol » il est extraordinaire le Kohen Gadol, à Kippour, quand ?« Betseto me bet koche akodashi » Le grand moment de Kippour, ce n'est pas quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est quand il en sort pour ramener dans ce monde toute la puissance qu'il aura puisée dans le huitième jour. Car le Beth Amikdash est bel et bien l'ambassade du huitième jour dans le septième. Voilà le programme de la création et les enjeux de la création dans la Torah du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, Erev Tov et Kulam.